I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
Et c'est une séance live un peu spéciale, une séance privée. Et pour l'amener à bien, cette séance privée, j'ai à mes côtés Antoine Corte de Bulle de Culture. Bonjour Antoine.
Bonjour Betty.
Et aujourd'hui, c'est une séance privée avec un grand compositeur de musique de film qu'on adore sur Séance Radio. Et c'est Gabriel Yared qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous. Bonjour Gabriel.
Bonjour Betty, bonjour Antoine.
Bonjour, bonjour.
Comment peut-on résumer, Antoine, la carrière de Gabriel ?
Ah bah alors, je vais, à mon avis, ça va être très difficile.
Ouais, il y a beaucoup de
films. Qu'est-ce en ligne.
C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est que vous avez passé une enfance au Liban, Gabriel.
Oui.
Que vous avez suivi des cours de composition d'Henri Dutilleux à Paris.
Oui, en tant que touriste, j'étais auditeur libre.
D'accord. Ensuite, voilà. Vous avez séjourné un petit peu au Brésil et vous arrivez ou vous revenez en France aux alentours des années 70, 1972. Oui. Dès les années 80, vous vous lancez et vous consacrez l'essentiel de votre activité à la composition de musique de film.
Oui, après avoir été orchestrateur pendant très très longtemps pour les chanteurs de variété.
Alors, c'est quoi la différence entre c'est quoi orchestrateur, justement ?
Ben, orchestrateur, c'est quelqu'un qui, à l'époque, en tous les cas, c'était comme ça. On recevait une cassette avec le compositeur ou le chanteur qui chantait avec une guitare ou avec un piano. Et on devait inventer absolument tout, c'est-à-dire l'introduction, l'accompagnement, les contre-chants. C'était une véritable création autour d'une chanson de base qui était souvent très basique, d'ailleurs. Donc moi j'ai travaillé avec des gens suivant les personnes avec qui j'ai travaillé, il y avait plus ou moins de musiciens et parfois des gens qui sont très peu musiciens. Je travaillais avec Beko et Aznavour qui étaient vraiment de très bons musiciens. J'ai aussi travaillé avec Jonas qui était un bon musicien, mais j'ai aussi travaillé avec plein d'autres chanteurs qui ne l'étaient pas forcément et qui se laissaient faire. Les autres savaient à peu près ce qu'ils attendaient d'une orchestration. Mais une orchestration, c'est vraiment l'écrin dans lequel vient se nicher le petit diamant, si c'en est un, qu'on appelle une chanson, et qui est en principe un ABA, c'est-à-dire un couplet, un refrain, un couplet, mais il faut créer l'introduction, il faut attraper tout de suite l'oreille de l'auditeur en inventant ce qui précède la chanson et ce qui l'accompagne tout le long, c'est-à-dire les contre-chants, c'est-à-dire les chœurs, les violons, les cuivres, etc. Donc c'est un véritable métier qui n'était pas le mien du tout, d'ailleurs, je suis tombé là-dedans par hasard, puisque j'ai commencé avec le seul duo de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan qui s'appelait « J'ai un problème ». C'est comme ça que j'ai commencé dans l'orchestration. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fiche là-dedans ? Je ne sais pas faire ça, je ne suis pas né pour ça. Mais grâce à eux, j'ai beaucoup appris, parce que au lieu d'acheter un appartement ou d'investir l'argent que je gagnais, j'ai acheté beaucoup de partitions d'orchestre, de Palestrina jusqu'à Messiaen, Ligeti, etc. Et c'est comme ça que grâce à eux, finalement, j'ai appris la musique.
D'accord, ça a été en fait les gens qui vous ont amené vers la musique. C'était pas une passion du départ.
Ah, ça a toujours été ma passion.
D'accord.
Simplement, comme j'étais autodidacte, il fallait que j'apprenne. Je ne sors pas d'un conservatoire ou d'une académie de musique, donc je suis un enfant de la balle, en gros un autodidacte. Et quand j'écrivais des orchestrations, je ne savais pas comment je faisais, mais ça devait sonner très bien. Et j'achetais des partitions d'orchestre de Ravel, de Bussy, de Prokofiev, Stravinsky, etc., pour, au fur et à mesure, apprendre. Et quand j'ai arrêté de faire des orchestrations, je les ai arrêtées parce que mon maître Henri Dutilleux, dans les années 70, m'avait dit, même si vous n'avez pas appris, je vous recommande d'apprendre le contrepoint. Et en 79, j'ai arrêté de faire des orchestrations pour justement prendre des cours de contrepoint et de fugue avec un professeur du conservatoire à la retraite qui s'appelle Julien Falck, qui est mort maintenant. Donc, si vous voulez, l'orchestration a été sur mon chemin une manière de continuer à nourrir ma passion et en même temps de la faire s'épanouir. Sinon, je n'aurais jamais pu écrire ou des musiques de ballet ou des musiques de film après. J'étais un compositeur.
C'était un pied à l'étrier.
Oui, j'avais une très belle oreille, une très bonne oreille, disons. Mais l'oreille ne suffit pas pour un compositeur. Il faut aussi savoir écrire, il faut connaître les lois de l'architecture. Sinon, on est comme un dessinateur qui fait de magnifiques dessins, mais qui pourra, il pourra dessiner une maison, un immeuble, mais il pourra pas le faire tenir parce qu'il connaît pas les lois de l'architecture, il connaît pas les lois véritablement. Alors, ces lois sont inévitables pour qui veut apprendre, pour qui veut progresser en musique, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant les deux années qui ont précédé mon entrée dans la musique de film par hasard.
Donc du coup, vous rentrez à la composition de musique de film en travaillant avec Jean-Luc Godard, vous commencez par lui, un réalisateur oui. exigeant quand même.
Oui, exigeant et très mélomane. Alors si on peut parler de quelqu'un qui connaît bien la musique, c'est lui, il connaît tout Bach, il connaît tout Beethoven, etc. Mais je suis rentré dans la musique de film avec Godard, qui ne m'a pas montré des images, il m'a parlé de son film. C'est ça qui est le plus étrange. Et cette approche-là a été, au fil du temps, mon approche, à travers toutes les musiques de films que j'ai écrites. Je voulais être là depuis le début, je voulais être là avant les images, pour imaginer, justement. Parce que très souvent, les images ne vous portent pas, quand on est compositeur, à imaginer. On a tendance à regarder les images et à faire la musique qu'il faut. Bon, pour imaginer les choses, il ne faut pas qu'elle soit encore incarnée. Il faut qu'elle soit dans l'air, il faut qu'elle soit dans le brouillard. Moi, quand un réalisateur me parle de son film à venir, il m'inspire beaucoup. Et les exemples sont nombreux. Godard, par exemple, pour qui j'ai écrit toute la musique du film, sauf qu'il peut la vie, sans avoir vu une seule image. Mais il a pris la musique que j'avais écrite et il a remonté ses images en fonction de la musique. Plus tard, avec Benex aussi, toutes les musiques que j'ai composées en grande partie, enfin celles qui sont connues, sont des musiques qui ont été composées avant l'image.
C'est un travail qui n'est pas donné à tout le monde. Du coup, ça permet une liberté aussi de travailler comme ça ?
Ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'abord d'être investi dans un projet depuis le début. Vous savez, un réalisateur, il passe parfois 2 ans, 3 ans à monter son film, à réunir les financements, à chercher ses acteurs, à chercher les lieux où il va tourner. Et nous, on ne peut pas arriver au dernier moment, 3 mois avant le mixage, et se dire, tiens, je vais épouser l'esprit du film. C'est quelque chose qui se travaille dès le début. Et étrangement, Godard m'a d'une certaine manière influencé dans ma manière d'approcher la musique de film, c'est-à-dire être là depuis le début et être un véritable co-auteur. Parce que dans nos pays, en Europe, le compositeur est considéré comme un co-auteur, mais un co-auteur ne peut pas arriver au dernier moment. Et dans tout ce que j'ai fait avec Benex ou Anno ou Minghella ou même Xavier Dolan, ce sont des musiques qui ont été réfléchies avant même le tournage des images. C'est-à-dire qu'on parle ensemble, le réalisateur et moi, nous parlons, nous lisons d'abord le scénario ensemble, nous parlons ensemble de ce que nous attendons de la musique. On dit souvent j'ai entendu dire, oui, mais la musique est un personnage dans le film. Et pour qu'elle soit un personnage, il faut lui accorder de l'espace et du temps. Et souvent, on n'a pas le temps quand on arrive au dernier moment. Donc j'ai décidé de faire beaucoup moins de films que je pourrais, et me consacrer vraiment à chaque projet, parfois 5 mois, 6 mois, 8 mois, comme c'est le cas dans Le Patient Anglais, ou parfois 1 an ou 1 an et demi, comme c'est le cas avec Xavier Dolan sur son dernier film, qui n'est pas encore sorti. C'est un investissement qui fait que, on donne aux réalisateurs des idées musicales qui sont aussi des idées chorégraphiques de tournage, qui sont aussi, je prends comme exemple, 37-2 le matin avec Benex, cette idée d'avoir 2 pianos face à face, avec Jean-Hugues Anglade d'un côté et Béatrice Dalle de l'autre, elle a été tournée avec les acteurs qui jouaient la musique que j'avais composée. Donc la musique avait été composée avant, et leur possibilité pianistique ou musicale a été prise en compte. Je savais que Béatrice Dalle ne pouvait jouer qu'avec un doigt, que Jean-Hugues Anglade, lui, avait travaillé un peu le piano, qu'il jouait une pièce de Debussy qui s'appelle Docteur Gradus ad Parnassum. J'ai utilisé leur technique ou leur manque de technique pour composer ce thème à 2 pianos que tout le monde connaît et qui a été finalement... On dit souvent, la musique épouse le film, mais si elle l'épouse, c'est qu'elle a été vraiment conçue en même temps, je
dirais. C'est qu'ils ont vécu un petit peu ensemble.
Oui,
c'est un peu
on
ça.
A vécu ensemble. C'est un mariage. Okay. C'est un mariage. Ce n'est pas simplement des fiançailles passagères. Donc, et puis, souvent, on parle de la musique de Morricone, par exemple. Morricone, si Morricone a été entendu, c'est parce que Sergio Leone lui a laissé de l'espace. parce qu'il y a des scènes entières dont il était une fois l'Amérique, où il était une fois dans l'Ouest, où il n'y a plus de bruitage, où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a que la musique. Alors, la musique peut exprimer vraiment un personnage et peut apporter au film sa note personnelle.
Mais alors Gabriel, si vous travaillez tout le temps comme ça, comment vous faites pour enchaîner plusieurs films? Est-ce que ça vous arrive d'avoir deux projets en même temps, trois projets en même temps?
Non, c'est très rare. C'est très rare. Je suis devenu comme une sorte d'asset, c'est-à-dire que quand je dis oui pour un film, je passe le temps sur ce film. Mais maintenant, je peux très bien composer les musiques avant le tournage, et puis j'attends que le tournage se passe, et je reviens vers ces musiques pour les ciseler à l'image, parce qu'il faut aussi, il y a un travail avant, et un travail aussi après. Une fois que le film est fait, il faut vraiment, pour épouser l'image, travailler sur chaque scène, sur les couleurs de la scène, sur les dialogues, sur le ballet des acteurs. Donc c'est un travail en amont et aussi plus tard pendant le montage. Cette approche me permet, si vous voulez, de donner au montage des maquettes de musique qui seront les musiques du film. Alors que de plus en plus aujourd'hui, les monteurs et les réalisateurs utilisent des musiques temporaires, c'est-à-dire des musiques qui sont prises dans plusieurs autres musiques de films, chez Hans Zimmer ou James Newton Howard ou John Williams, etc. Et on met ces musiques en attendant d'engager un compositeur. Et ça, c'est complètement hérétique, parce que en faisant ça, on s'habitue à la musique temporaire qu'on utilise.
Et puis après, on peut être déçu, du coup, de ce qui va se faire.
Mais oui, et puis le compositeur, quand il arrive, il y a déjà des habitudes qui sont installées, on lui enlève son souffle, son rythme, tout. Donc, j'ai décidé de me consacrer à un film, j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait beaucoup au début, quand j'ai commencé, mais plus ça va dans ma filmographie, et moins j'en fais par an. Je donne un exemple. Sur Xavier Dolan, j'ai commencé le dernier en mars 2016 et j'ai enregistré la musique en juillet 2017. Entre-temps, j'ai fait un film pendant que lui tournait. Donc, ça oblige, si vous voulez, à gagner moins, mais à s'investir plus et à servir et le film et la musique.
Et justement, par rapport à vos débuts, ou même encore aujourd'hui, vous avez travaillé aussi bien avec des productions étrangères, enfin américaines ou françaises. Est-ce que vous avez travaillé de la même manière aussi? Ou est-ce que
pas
justement
toujours,
c'est
pas
ça,
toujours.
Ça... Ah, voilà.
Pas toujours. Les Américains ne comprennent pas qu'on puisse commencer à créer de la musique alors que leur film n'est pas tourné. Moi, que deux fois j'ai entendu de compositeurs, de réalisateurs américains, mais how can you do compose music if I haven't started? Et il y en a qui comprennent. Avec Robert Altman, par exemple, pour Beyond Therapy ou bien Vincent et Théo, ils comprenaient très bien. Et c'est la seule approche vraiment qu'on puisse avoir si on ne veut pas se répéter, si on veut inventer, si on veut prendre des risques et les faire prendre en même temps au réalisateur. C'est-à-dire qu'il faut le prendre par la main et faire tout ce chemin avec lui.
C'est une question de confiance aussi.
C'est une question de confiance et d'investissement personnel. Il y a des réalisateurs qui ne connaissent pas très bien la musique. Il faut lui dire, viens, écoutons. Écoute le pouvoir de la musique sur les images.
Alors,
que personne ne sait.
Il faut rappeler à nos auditeurs donc, que vous avez eu quand même des grosses récompenses. Vous avez eu notamment un César pour L'Amant de Jean-Jacques Hano.
Oui.
Que vous avez eu un Oscar pour Le Patient Anglais. Est-ce que ce sont les musiques qui vous ont le plus marqué dans votre carrière?
Marqué, non. Mais disons, ce sont des musiques sur lesquelles vraiment j'ai passé du temps et sur lesquelles j'ai accompagné un film. Je l'ai accompagné depuis le début. Sur Le Patient Anglais, par exemple, j'ai commencé avec Anthony Minghella, il est venu chez moi, j'habitais à l'île aux Moines à l'époque, en Bretagne. Je m'étais isolé, je voulais sortir de Paris, et on a lu ensemble le scénario, et chaque fois qu'on lisait, on parlait de la musique qui pourrait éventuellement venir sur telle ou telle scène. Ce qui fait que la plus grande partie de la musique du film The English Patient a été composée avant le tournage. Évidemment, elle a été retravaillée après. Mais ça vous permet, si vous voulez, quand on compose une musique de film au dernier moment, en regardant les images, en faisant ce qu'il faut, ce que je trouve absolument cynique, on reste dans le tracé de la musique de film, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'il faut pour que ça marche.
Un peu comme si on faisait du commercial, c'est ça?
Je ne veux pas dire commercial, c'est industriel. Parce
voilà,
tout,
oui,
le film est une industrie aux États-Unis. Et alors que si on commence beaucoup plus tôt, on a le droit de se tromper, ce qui est essentiel dans un phénomène de création. Le droit de se tromper, le droit d'essayer des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et puis aussi, surtout, on permet aux réalisateurs de connaître la musique à venir, aux acteurs parfois. Moi, je me souviens, Anastasia Kinski et Depardieu m'avaient dit, pour La Lune dans le caniveau de Benex, c'était formidable de pouvoir écouter la musique sur le plateau à Cinecittà, parce que nous, nous sommes les derniers à savoir quelle est la musique qui va tomber sur cette scène. Ils ne le savent pas. Ils ont commencé à tourner et le compositeur arrive 8 mois plus tard. Donc, si vous voulez, dans 37.2 aussi, toute l'équipe du film, ce soit Jean-François Robin, le chef opérateur, le cadreur, le producteur, le réalisateur, les acteurs connaissaient la musique. Donc même si la musique n'est pas jouée en même temps qu'on tourne une scène, d'une manière subliminale, en fait, ils connaissent déjà, ils savent quelle est la musique qui va accompagner leur scène. Et ça change absolument tout. Et je me suis rendu compte, moi je faisais ça parce que c'est ma nature, parce que je veux pas travailler que sur les images. C'est un accident dans ma vie, je ne connais pas très très bien le cinéma. Mais je me suis rendu compte après que Fellini travaillait comme ça avec Rota, que Herman travaillait comme ça avec Hitchcock et Léon avec Morricone.
Un accident qui dure longtemps quand même, hein.
Pardon ?
Un accident qui date quand même.
Oui.
Hein,
oui,
c'est un
oui.
bel accident.
Mais
c'est
pas... J'étais pas fait pour la musique de film, je savais pas. Moi,
magnifique.
Je voulais composer quoi que ce soit, une publicité. Pour moi, c'était vraiment une œuvre déjà de composer une musique publicitaire ou une chanson, une musique de ballet. Tout est prétexte à inventer de la musique et à chaque fois, surtout, ce qui est le plus important, à se renouveler.
Et alors justement, en tant que, comme tout ça, c'était pas prévu et que c'était un peu, enfin, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais ce fameux petit accident de la vie qui fait qu'il vous a amené jusqu'à ce chemin-là, quand vous, la première fois de votre vie, vous avez entendu votre musique au cinéma, dans un film, ça vous a fait quoi ? Ou même aux gens qui vous aiment. Hein.
Oui, moi j'aime pas du tout m'entendre. Je ne réécoute jamais ce que j'ai fait. Mais je me suis dit, tiens, j'ai réalisé un bon mariage. Parce qu'il s'agit de ça. J'ai fait vraiment un beau couple avec ce réalisateur, ou avec ces acteurs, ou avec cette réalisatrice. C'est la seule chose que ça puisse me faire. Mais sinon... je ne sais pas, je pense que apporter quelque chose à un film, c'est vraiment lui consacrer du temps. Et les 3 mois qui nous sont donnés en général dans le milieu, c'est-à-dire aux États-Unis, un compositeur est engagé pour 3 mois. Pendant ces 3 mois, il doit composer, présenter ses maquettes. Ça, c'est nouveau, les maquettes. Avant, on les présentait pas. Mm-hmm. Présenter des maquettes, orchestrer, aller en studio, et c'est terminé. Et moi, je trouve que c'est un peu court. Donc, j'ai plutôt opté pour cette approche-là. Ce n'est pas une méthode, parce que il m'est arrivé d'avoir des films sur lesquels je ne pouvais pas avoir ce temps-là. Camille Claudel, par exemple, avec le film de Bruno Nguyen avec Adjani et Depardieu. Isabelle, j'étais aux États-Unis, Isabelle m'a envoyé un fax à l'époque pour me dire « on a besoin de toi ». Je suis venu à Paris et j'ai vu 4 heures d'ours de ce film. Une pure merveille, 4 heures. Ils avaient posé dessus des musiques classiques de Mahler, de Bruckner et de Benjamin Britten. Malheureusement, Benjamin Britten est mort en 1970, le compositeur anglais, et il n'était pas dans le domaine public, donc il fallait vraiment une composition originale. C'est ainsi que j'ai débarqué dans ce film. Eh bien, là encore, j'ai demandé à revoir ce tour de 4 heures, et je me suis isolé et j'ai commencé à composer. Et j'ai composé une suite, 3 suites d'orchestre pour grand orchestre à cordes. Et j'ai dit à Isabelle et Bruno Nguyen, ce qu'on va faire, c'est prendre ces musiques, comme vous l'avez fait pour les musiques classiques, puisqu'ils ont pris des extraits de Mahler ou de Bruckner ou de peu importe. Et on va faire pareil. Si ces musiques épousent vraiment l'esprit de l'image, nous allons trouver ensemble l'emplacement où mettre ces musiques. Et c'est comme ça qu'on a procédé. Et c'est très étrange d'ailleurs. Souvent, si vous avez des images que vous avez tournées, des scènes que vous avez tournées, vous essayez de mettre des musiques différentes, et vous voyez que chaque fois, la musique a un pouvoir d'explication, ou en tous les cas, un pouvoir de pénétration dans l'image, qui peut donner des erreurs, d'ailleurs, qui peut vraiment faire des malentendus totaux, mais ou alors transcender.
Alors, est-ce que c'est un peu cette ambiance que vous avez voulu donner à La Promesse, le film de Terry George qui sort sur nos écrans?
Je n'ai pas pu travailler de cette manière-là avec Terry. Il savait que j'aimais bien travailler avec l'image, avant l'image, mais il avait déjà commencé à tourner. Et ça a été un projet très difficile pour moi parce que, comme comme vous l'avez dit, je suis né au Liban, et au Liban, moi j'étais pensionnaire chez les Jésuites très tôt, à 4 ans, jusqu'à 14. Et mes seuls amis, comme je ne vivais que pour la musique, dans une famille où il n'y a aucun artiste, aucun compositeur, aucun artiste. Donc j'étais un peu comme une sorte de bélier noir perdu. Et mes seuls amis étaient des Arméniens, parce que les Arméniens sont vraiment artistes, musiciens, peintres, etc., et artisans. Et donc, je me suis souvenu de cette période-là, et j'ai essayé de composer la musique la plus proche et la plus pudique par rapport à un sujet qui est aussi difficile que le génocide. Vous savez, quand on voit des gens se faire attraper, se faire jeter, se faire tuer et tout, tout d'un coup, on recule un peu, on se dit mais je peux pas faire de la musique trop lyrique, trop romantique, c'est pas possible. L'image parle déjà d'elle-même. Et c'est encore une fois ce que je pense, c'est que parfois l'image a une musicalité intérieure qui fait que la musique doit se reculer d'une certaine manière. Elle doit se mettre de côté. Elle doit juste dire le nécessaire, mais sans plus.
D'accord, elle doit être là, mais on ne doit pas plus l'entendre que l'image, quoi.
Sur la pointe des pieds, oui. Si l'image a une musicalité, mais il y a beaucoup d'images qui ont beaucoup de musique en elles-mêmes quand on les voit défiler. Moi, j'aime pas beaucoup trop de musique dans un film. Je n'aime pas ça. Parce que je trouve que c'est comme Stravinsky disait, c'est du papier peint. Ça peut être du papier peint. Ce qu'il faut vraiment, c'est quand la musique arrive, d'abord, quel est l'espace pour s'exprimer, mais aussi qu'elle apporte quelque chose de nouveau à ce qui se passe, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent d'une image.
Alors du coup, par rapport à ressentir les films, vous avez pu en faire l'expérience cette année en tant que juré au Festival de Cannes. Quel est le retour d'expérience par rapport à ça? Est-ce que vous avez eu la même vision que vos co-jurés? Est-ce qu'il y a eu un débat? Est-ce que vous-même, vous avez perçu des choses que les autres n'ont pas perçues?
Oui, vous savez que je me suis engagé jusqu'à la fin de ma vie à ne jamais parler des délibérations et de ces choses-là. ça fait partie de notre contrat. Mais par contre, je peux dire une chose, c'est que quand j'étais à Cannes, je n'étais pas là pour analyser la musique. J'étais là pour embrasser un film dans sa totalité. Et quand je regardais, j'écoutais certainement, mais si la musique m'importunait, je n'accordais pas d'importance à ça. Je me disais que c'était un petit événement, c'est pas grave.
Vous arriviez à faire départager ça?
Ah oui, il le faut, parce que quand on est là, c'est vraiment... Je veux dire, le cinéma est certainement... Bon, il est le septième art, mais c'est l'art qui est finalement le plus complet, puisque dans le cinéma, il y a la littérature, il y a la peinture, il y a le théâtre, il y a même la sculpture, si on y pense un peu, il y a la chorégraphie, il y a tout ça, il y a tous les arts qui sont réunis. Donc quand on essaye de voir un film, il faut le voir avec des yeux d'artiste, certainement, mais pas simplement d'artiste spécialisé en musique de film, ce qui était mon cas.
Et alors, ça, c'était parce que vous étiez dans le cadre du travail, quelque part. Mais quand vous, Gabriel, vous allez, si vous avez le temps, au cinéma, en famille, ou est-ce que vous arrivez à voir un film en départageant comme ça si la musique vous plaît ou pas?
Mais mon oreille est tout le temps titillée, c'est normal. C'est normal. Évidemment que j'entends. Je vais très peu au cinéma. Et si je vais très peu au cinéma, ce n'est pas parce que je n'aime pas le cinéma, j'aime le cinéma. Mais je consacre beaucoup de temps à évoluer moi-même. Et pour évoluer, donc, je passe mon temps à lire, à lire des partitions, à me mettre au piano, à jouer Schumann ou Bach ou n'importe quoi. Mais je passe beaucoup de temps... si on peut dire enfermé dans la musique, mais la musique est une ouverture à horizon infini. J'ai toujours la sensation que quand je fais de la musique, ou quand je lis de la musique, ou quand j'en joue, je m'ouvre au monde entier, et à tous les arts, quels qu'ils soient. Donc, c'est ce que j'avais dit à Thierry Frémaux quand il m'a proposé d'être membre du jury. Je lui ai dit, mais tu sais bien, je ne suis pas un grand cinéphile. Il m'a dit, ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est le point de vue d'un artiste, de quelqu'un de sensible.
Ben justement, on va pouvoir s'ouvrir à vous et à votre musique grâce à la 6e édition du week-end des Musiques à l'image. Ce sera le 9 et 10 décembre avec votre concert.
Oui, alors il va y avoir un grand concert hommage. D'ailleurs, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette grande session dans un cadre magnifique qui est la Philharmonie de Paris? Ça va être sublime, je pense.
Mais oui, tout est prestigieux dans le cadre de mon concert. Il y a le cadre de la Philharmonie, la salle Pierre Boulez. Il y a aussi et surtout l'orchestre, le London Symphony Orchestra, que je ne vais pas diriger parce que je me sens plus à l'aise au piano. Mais quand je ne suis pas au piano, je dirige. J'ai demandé à un ami qui a déjà dirigé plusieurs fois mes concerts, qui est un grand chef et qui est aussi un très très bon compositeur. compositeur qui s'appelle Dirk Brosset, qui va diriger lui l'orchestre, tandis que moi je serai au piano. Alors sachez que vraiment c'est un concert que j'ai pris très à cœur, c'est-à-dire que je le prépare depuis juin de l'année dernière, enfin juin, depuis le mois de juin. Il a fallu d'abord que je puisse trouver des images, parce que le cahier des charges, disons, de Audi Talents, qui promeut ce concert, c'est un concert avec images. Or, moi, tous les concerts que j'ai donnés, que ce soit à l'Espace Cardin ou à Madrid ou à Ghent, étaient des concerts sans images. C'est-à-dire que je passe une vidéo d'une scène telle qu'elle est, sans l'orchestre. Après, on arrête la vidéo et je joue la musique. Cette fois-ci, j'ai voulu quand même qu'il y ait des images en même temps que l'orchestre joue. Et j'ai trouvé un bon compromis sur un concert de 90 minutes, il y a environ 35 à 40 minutes d'images. Et le reste, c'est de la musique seule.
Donc en fait, c'est une sorte de réalisation que vous avez créée à travers ce concert.
Oui, véritablement, oui. J'ai choisi chaque pièce, j'ai choisi chaque scène. Par exemple, dans 37.2, on verra dans le film de Benex que je joue, que l'orchestre va jouer sur une scène qui n'a pas été prévue pour cette musique. Ce qui nous ramène à ce que je vous disais, quand on épouse l'esprit d'un film, on peut prendre cette musique et la mettre n'importe où sur une scène, elle marchera toujours parce qu'elle est mariée au film, parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à l'esprit du film.
Ce concert sera une demande en mariage avec le public.
Oh oui, moi je dis toujours aux auditeurs, écoutez, regardez le film, d'accord, mais quand il n'y aura pas le film, quand il n'y aura pas les images et que je vais jouer la musique, fermez les yeux, créez-vous vos propres images et faites-vous votre propre cinéma. Parce que la musique ouvre aux images, quelles qu'elles soient. Chacun peut s'inventer vraiment son propre cinéma en fermant les yeux, en écoutant une musique. Et ça existe depuis que la musique existe. Je veux dire, quand on écoute La mer de Debussy ou bien Le sac du printemps de Stravinsky, on ferme les yeux et puis on peut vraiment... Chacun de nous est un scénariste formidable. Dans ce cas-là, il suffit simplement de se concentrer sur la musique et de se faire son propre scénario et ses images.
Et alors, il y a quand même la venue de Catherine Ringer et Yael Naïm aussi.
Mais oui, j'ai pas été jusqu'au bout. Ah. Alors évidemment, je suis vraiment heureux et très honoré que Catherine et Yael aient accepté de chanter dans ce concert. Catherine, bon, c'est avec Catherine que j'écris la chanson de Tati Daniel, vous savez, La complainte de la vieille salope. Donc c'est elle qui l'a créée. Je voulais au départ qu'elle la chante à mon concert, et puis je lui ai proposé de chanter aussi l'ouverture du Patient anglais, qui est ce chant folklorique turco-hongrois, on ne sait pas exactement d'où il vient, qui s'appelle Serelem, et qu'il faut chanter en hongrois. Mmh. Elle a accepté de le faire. Quant à elle, Naïm, je ne la connais pas. Je vais la rencontrer pour la première fois à la veille du concert pour la générale, parce que un jour j'ai entendu à la radio une chanson qui m'a beaucoup plu. Vous savez, c'est rare d'entendre des choses qui ne sont pas communes. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Mais c'est un ovni très intéressant. Moi, j'aime bien les chansons qui ne sont pas couplet-refrain.
Les chansons et les voix aussi, parce que c'est un ensemble.
Oui, et les voix. Et j'ai entendu une chanson qui s'appelait Coward, qu'elle chantait avec Brad Meldo. Et j'étais obsédé par cette chanson et par la voix de Yael Naïm. Et quand je lui ai proposé tout ça par mail, si elle voulait bien chanter La berceuse de Monsieur Ripley, elle m'a tout de suite dit oui. Et je vais la découvrir bientôt. On va répéter avec l'orchestre, le LSO, à Londres.
Alors ce week-end, c'est également tout un hommage qui est fait à votre travail, avec des rencontres notamment. Et il y a, à 17h30 le samedi, Évoquer Gabriel Yared avec Pascal Couesneau, Patrice Lecomte et Michel Oslo. Pourquoi ces trois artistes, quels sont vos rapports avec
Patrice Lecomte, ça a été une entente immédiate. Je n'ai fait qu'un seul film avec lui qui s'appelle Une promesse, un film tiré d'une nouvelle de Stefan Zweig, qui est un film en anglais, le seul film en anglais que Patrice Lecomte ait fait. Et nous nous sommes tout de suite compris, et j'ai composé en fonction des images, j'ai composé très très tôt dans le processus, mais le film était déjà tourné. Et j'ai voulu donc que lui parle de notre collaboration, de notre entente. J'aurais voulu aussi qu'il y ait Jean-Jacques Hano, malheureusement il ne peut pas, parce qu'il est en tournage. Et Michel Oslo, parce que il fait des films d'animation qui sont de purs chefs-d'œuvre et des merveilles de dessin et de réalisation. J'avais fait avec lui Azur et Asmar, et je suis en ce moment en train de finir la musique pour son prochain film d'animation qui s'appelle Lily à Paris.
Est-ce que c'est un travail différent entre justement un film d'animation et un film, une fiction normale? Vous travaillez de la même manière. Vous, il va vous raconter le film,
oui,
et vous regardez aucune image.
Oui, il m'a montré tous ses dessins, Michel Ousleau, comme il avait fait pour Azur et Asmar. J'avais vu tous les dessins avant même qu'il commence l'animation. Mais dans les films d'animation, l'animation ayant besoin de musique, il faut absolument composer les musiques avant l'animation.
D'accord.
Donc ça me correspond parfaitement. Et je sais pas quand ce film va sortir bientôt, je l'espère, mais c'est véritablement un chef-d'œuvre, car ça se passe dans le Paris des années 1900. Et donc cette petite héroïne va rencontrer Rodin, Debussy, Sarah Bernhardt, Louise Michel, enfin les sommités du début du siècle dernier, et tous les dessins restituent le Paris des années 1900. Je vous laisse imaginer. C'est vraiment d'une grande beauté.
Gabriel, vous faites quand même un métier qui est merveilleux. Il y a certainement certains de nos auditeurs qui sont peut-être comme vous, autodidactes, qui aiment la musique. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire s'ils voudraient suivre aussi un peu comme vous carrière?
Venez à la musique de film comme des compositeurs, pas comme des spécialistes de la musique de film. Si vous voulez écouter, n'écoutez pas forcément les musiques de film, parce que les musiques de film sont toutes les enfants et les filles et les descendantes de grandes musiques qui sont là depuis très très longtemps. Tous les compositeurs de musique de film du début du cinéma sont tous des musiciens classiques qui ont étudié véritablement la musique, et que ce soit Korngold, que ce soit Miklos Rocha, Dimitri Tiomkin, que ce soit Bernard Herrmann, etc., tous sont vraiment d'abord des compositeurs. Un compositeur sait ce que c'est que la dramaturgie. Il pourrait écrire un ballet, il pourrait écrire pour un théâtre, pour le théâtre, il pourrait écrire pour le cinéma. Quand il arrive au cinéma, il faut qu'il garde les moyens qu'il a, c'est-à-dire une connaissance musicale, et qu'il serve un film en le suivant de près, mais aussi qu'il serve la musique. Parce que il y a de plus en plus de gens qui vont au cinéma, et beaucoup plus de gens qui vont au cinéma que de gens qui vont au concert. Eh bien, si nous écrivons une musique, il faudrait que cette musique élève et éclaire les gens qui vont au cinéma. Qu'elle ne soit pas simplement là pour leur taper dans le bas-ventre avec des grands effets. Il faut aussi qu'elle dise la beauté de la musique tout en servant et le film et la musique.
Et ben en tout cas, sur Séance Radio, vous êtes sûr que vos musiques sont là et on les passe bien.
Merci.
C'est un grand plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Et on vous retrouve le 9 décembre à 20h30 au concert à la Philharmonie de Paris. On aura l'occasion d'en reparler encore sur Séance Radio. Merci énormément de nous
avec
avoir
plaisir.
Été avec nous dans cette séance privée. Merci Antoine.
Merci Gabriel. Merci Betty.
Merci Antoine.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.